Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du retour de Jésus-Christ. Donc, après le message la semaine dernière, quelqu'un m'a posé des questions. Pouvez-vous élaborer un peu sur le retour de Jésus? Donc, pendant les prochaines quelques fois, aujourd'hui, la semaine prochaine, la semaine après, nous allons focaliser un peu sur cette question prophétique. Je regardais un petit peu dans ce sujet de COVID. Ça continue à se propager et on voit que à travers le monde, il y a déjà plus de 160 000 personnes qui sont mortes et 120 000 de ces 120 000 sont décédés entre les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. Donc, il faut continuer à prier à ce sujet, prier pour vos amis et vos collègues, vos familles, prier que Dieu arrête cette fléau, ce plaie, parce que c'est une épidémie comme dans les études prophétiques, quand on parle des choses douloureuses, les choses douloureuses qui vont venir. Aujourd'hui, c'est le retour du Christ. Pourquoi? Okay? Donc, la semaine dernière, j'avais lu Tite, chapitre 2, verset 13, qui parlait du retour de Jésus. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit que ce mot en attendant, le mot attendre signifie attendre une personne dans le sens de le recevoir ou de l'accueillir. Okay? Donc, le chrétien qui est éduqué dans la Bible, qui est informé, le chrétien informé attend sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. La bienheureuse espérance est le retour de Jésus-Christ. Quelques semaines après sa résurrection, donc Jésus a été crucifié, il est revenu à la vie et il est resté parmi les disciples pendant plusieurs semaines. Et après quelques semaines, il est parti au ciel. On dit, j'ai oublié le mot. Bon, c'est pas grave. Et donc, en parlant de ça, le médecin Luc, qui accompagnait Paul, il a dit, donc dans Luc chapitre 24, Jésus les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Voilà, Jésus était là, il est monté par là, et puis il n'était plus. Et dans l'évangile de Luc, ça s'arrête là. Après, Luc revient dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 9 à 11, pour donner davantage de détails. Donc, je vais lire dans Actes, chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, Jésus fut enlevé pendant que les disciples le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Donc là, ça part des anges. Verset 11. Et dirent, donc les anges ont dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Viendra, donc ce même Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Le point aujourd'hui, c'est que Jésus va revenir. Jésus lui-même l'avait promis dans Jean chapitre 14, la fin du verset 2 et verset 3. Je vais vous préparer une place. Donc c'est dans Jean chapitre 14, un passage très beau. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc je répète, Jésus a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc il ne faut surtout pas rater ce point. Le retour de Jésus-Christ est capital. Il va revenir. Même quand on prend le repas du Seigneur, nous le pratiquons jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, on prend le repas du Seigneur en attendant son retour. Un sauveur qui revient est un sauveur vivant. Et un sauveur qui revient 2000 ans après qu'il ait été, je devrais dire qu'il est encore vivant 2000 ans après qu'il ait été crucifié, est certainement le Fils de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question quand. Quand est-ce que Jésus va revenir? Et je vais le dire comme ça, il faut savoir que Jésus va revenir au bon moment. Il ne va pas venir trop tôt ni trop tard. Il va venir au bon moment. Donc, pour vous rappeler, la semaine prochaine, je parle de pourquoi, et la semaine après, je parle de la tribulation. Mais aujourd'hui, je parle de quand. Et quand on parle de quand, on parle aussi des signes. Mais pour mettre une distinction entre le fait que Jésus va revenir et les signes parcoureurs de son retour, avant son retour, eh bien, je coupe le message là. Et on s'arrête et on revient. Et quand je vais donner pas mal d'informations sur les signes, je ne vais pas donner les versets bibliques, je vais donner une globalité et vous allez pouvoir récupérer les versets pour étudier online. Donc, la doctrine des choses de la fin s'appelle eschatologie. Eschatologie, donc les choses de l'avenir, de la fin. On a plusieurs expressions qui représentent le temps entre le premier et le second retour de Jésus. Le premier événement et le second événement de Jésus. Okay? On a le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, en ce jour-là, le jour de sa colère. Toutes ces phrases englobent la pensée entière de l'eschatologie en ce qui concerne l'arrivée de Jésus-Christ pour son second venu. Dans Actes chapitre 2, dans les versets 16 à 21, que je ne vais pas lire, donc c'était le jour de la Pentecôte, et donc pendant ce temps-là, Pierre a invoqué les références prophétiques en Joël chapitre 2 concernant le jour de l'Éternel. Et dans ce verset, Joël a montré que au moment de l'arrivée de Jésus comme bébé, dans ce monde, pour être le sauveur de nos péchés, le monde est entré dans le temps de la fin. Donc, pour être clair, ça fait 2000 ans que nous sommes dans le temps de la fin. Le livre de Daniel est très important dans l'étude des prophéties bibliques. Dieu lui a révélé les points de référence, le plan global prophétique, et bien aussi pas mal d'autres choses qui sont incontournables. Par exemple, Daniel chapitre 9 et verset 24 dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple » et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. 70 semaines ont été fixées. Donc, dans cette prophétie, une semaine, c'est une semaine d'année. Donc, ça veut dire une semaine égale 7 années. Donc, cette prophétie précise une période de 490 années pour l'accomplissement de toutes les prophéties jusqu'au royaume de Christ. Une seconde partie de cette même prophétie dit que le Christ doit être tué, retranché, à la 483e année. 483e année. Donc, 7 années avant la fin des 490 ans. Voici cette partie de la prophétie dans Daniel chapitre 9, verset 25 et une partie de verset 26. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps facieux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. On va faire le calcul, sachant que une semaine veut dire 7 années. Donc on a 7 plus 62. 69, 69 semaines d'année, donc 69 multiplié par 7 années, ça veut dire 483 années. Alors le roi perse Artaxerxès, donc avant, c'est longtemps avant Jésus, a proclamé dans l'année 450, il a proclamé la reconstruction de la ville de Jérusalem. C'était à peu près cette année-là. 405 ans avant Jésus-Christ. Je n'ai pas cherché la date exacte. Ainsi, 483 années après l'année 450, après les 483 ans, le Messie devait être retranché. Le Messie devait être tué. Il ne devait pas avoir de successeur parce qu'il n'était pas marié, il n'avait pas des enfants, il était tué. Et ça était le cas. L'année 30 de notre ère, le Christ a été crucifié. 483 des 490 années se sont écoulées à la crucifixion de Jésus. Donc, je vais montrer une image pour aider peut-être. Donc, on a 70 semaines d'année, donc une semaine égale 7 ans. 7 ans, 7 semaines, donc c'est 49 ans. 62 semaines, 434 ans. Une semaine, 7 ans. Donc on a les 70 semaines qui représentent 490 années. Et le prophétie dit que le Christ devait être tué, retranché, à la 483e année. Et il ne reste que 7 années de ces 490. Alors ça fait une petite... ça nous trouble. Pourquoi? Eh bien, entre les deux, il y a toute une grande parenthèse de l'annonce de l'Évangile, de notre époque de l'Église. Alors, pour les disciples, hein? Comme il restait qu'une seule semaine prophétique à accomplir, parce que eux, ils n'ont pas l'avantage de vivre 2000 ans plus tard. Hein? Donc pour eux, qui venaient de voir les 483 ans s'accomplir, eh bien les disciples devaient croire que le royaume de Christ allait s'installer dans les prochains 7 ans. C'est peut-être pour cela que les disciples de Jésus sont venus. Ils sont venus le voir en particulier dans le Matthieu chapitre 24 pour lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton événement, donc de ton arrivée ou de ta présence, et de la fin de l'âge? Alors, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas dit le fin du monde, parce que ce mot, normalement, ne veut pas dire monde, ça veut dire âge, ça veut dire époque. Et donc, c'est une époque dans une série d'époques. C'est un âge dans une série d'âges. Le mot en grec, c'est aion. Aussi, dans Actes chapitre 1, versets 6 et 7, les disciples ont posé encore la même question. Seigneur, est-ce en ce temps, donc quand eux, ils vont être à Jérusalem, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Alors, si vous comprenez bien, les disciples ont posé la même question que nous posons aujourd'hui. Quand est-ce que tu établiras ton royaume? Pour nous qui vivons bien après la mort et la résurrection de Jésus, il est facile de voir que notre époque de l'Église, notre époque qui focalise sur l'évangélisation des païens, alors notre époque n'est pas du tout mentionnée dans la prophétie de Daniel. Pourquoi? Puisqu'elle parle, la prophétie de Daniel parle du peuple juif. Et nous, les païens, convertis à Jésus, nous ne sommes pas partis, nous ne faisons pas partie du peuple juif. Notre époque, notre dispensation de la grâce ou de l'Église, est comme une parenthèse entre le 483e année, donc la mort de Christ, et le début des 7 années de la tribulation, c'est-à-dire entre le 69e et le 70e semaine de la prophétie. Je voudrais faire encore notre petite précision. Quand on parle des prophéties bibliques concernant le retour de Jésus, il y a deux grands thèmes principaux. Le premier thème parle de l'avènement du Seigneur Jésus pour exercer ses droits en tant que roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ce règne lui appartient, car il est lui-même le Créateur et le Sauveur. Mais avant d'établir son règne, il faut obligatoirement qui détruisent les usurpeurs, le règne des non-croyants, qui ont régné à sa place pendant tous ces millénaires. C'est donc à ce moment-là que Dieu accomplira ses promesses à Abraham concernant la terre promise. Ce thème, donc le premier thème, parle aussi de Dieu qui sauve les pécheurs et les fait participer dans son règne terrestre, par le biais de la résurrection, bien sûr. Et enfin, ce thème nous parle d'une nouvelle création, d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux où il n'y aura pas de péché. Le second thème nous parle du jugement divin sur la méchanceté et l'incrédulité des hommes. C'est le jour de la colère de Dieu, la période de grande détresse pour les hommes. Puis, aussi, il parle d'une rébellion finale et la condamnation éternelle des injustes devant le grand trône blanc. Comme Dieu a tout créé, il a le droit de tout détruire. Il détruira donc notre univers actuel afin de terminer pour toujours l'histoire du péché. L'Apocalypse organise beaucoup, mais pas tout. L'Apocalypse organise beaucoup de ce qui est dans les prophéties de l'Ancien Testament concernant ce second thème. Donc, il y a les deux grands thèmes. Maintenant, donc, on va focaliser sur notre question. Quand est-ce que Jésus va revenir? La réponse est que personne ne connaît quand Jésus va revenir. Il faut que j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les gens qui vont dire « Ah, mais Jésus va venir ici » ou « Là, il va venir là » ou « J'ai fait des calculs et les planètes sont alignées » et Combien de fois déjà dans ma propre vie, on a vu des gens qui ont fixé une date, que Jésus doit venir à cette date-là. Eh bien, c'était toujours et ce sera toujours un mensonge. Personne ne connaît quand Jésus va revenir. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et puis, quand Jésus a répondu aux disciples, aux apôtres, dans Actes chapitre 1, verset 6 et 7, Jésus a dit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc, personne ne connaît quand Jésus va revenir. Cependant, son retour est sûr et certain parce que Dieu l'a promis. Nous n'avons qu'à croire et à être prêts. Son arrivée surviendra précipitamment, comme l'arrivée d'un voleur dans la nuit. Alors les incrédules mal interprètent son retard, hein, parce que ça fait 2000 ans. Et les incrédules prennent ça pour dire que, voilà, Jésus, il est mort et il est toujours mort et il ne reviendra jamais. C'est ça l'optique des incrédules. Par contre, la Bible a prophétisé, bien sûr, d'avance, sur la raison de ce retard. C'est la manifestation de l'amour de Dieu envers tout homme pécheur. C'est dans 2 Pierre, Dieu patiente. Et il retient sa colère afin que le plus du monde possible puisse bénéficier de l'Évangile. Son retour est imminent. Il y a des signes de son retour et de la fin de notre époque. Il y a des signes et je vais les énumérer après le message avec quelques autres renseignements. Et pour le moment, je voudrais expliquer la signification et l'importance de ce mot imminent. Imminent. Nous savons que Dieu, il transcende le temps. Okay? Donc Dieu, il est dans notre temps, mais il est en dehors de notre temps, parce que Dieu, il est éternel. Il est dans notre temps, mais il est dans notre temps en tout moment, en tout temps et tout en même temps. Donc, dans l'explication du retard, de l'accomplissement de ces prophéties, la Bible explique que pour le Dieu éternel, 1000 ans, sont comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. Pour Dieu, le temps ne compte pour rien. Ce qui compte pour jour, c'est les faits de l'histoire, le salut des hommes, l'accomplissement de ses promesses. Ça, c'est important à lui. Donc, focalisons pour quelques instants sur l'optique divine concernant le temps. Dieu est éternel. Il n'est pas lié au temps comme nous, les hommes, nous sommes liés au temps. Bien que l'Évangile a été conçu dans le plan de Dieu avant la création du monde, du temps, eh bien Jésus est venu dans les temps, juste au bon moment, afin d'accomplir l'Évangile. Pierre dit que Jésus est venu la première fois, quand Jésus est venu, il dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 20, que quand Jésus est venu la première fois, c'était à la fin du temps, à la fin des temps. Pourtant, 2000 ans sont déjà écoulés et au moins 1007 ans restent avant la fin de notre planète, c'est-à-dire la tribulation de cette année, plus le millénium de 1000 années, ça fait 1007 ans, sont toujours devant nous à partir de l'enlèvement. Il y a encore 1007 ans. Donc, il faut voir que Dieu, il a une optique spéciale sur le temps et dans les choses prophétiques. L'apôtre Jean lui va jusqu'à dire que à la lumière de l'éternité, il faut le capter comme ça, hein, nous sommes déjà dans la dernière heure. Comment peut-il dire cela? Bon, il dit que voilà, il y a des antichrists déjà existants et depuis longtemps. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, Jean a dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il parle de l'imminence du retour de Jésus. Jean peut dire ça puisqu'il est focalisé sur le fait du retour du Christ et non pas sur la date du retour du Christ. L'arrivée de Jésus est certaine, mais la date est inconnue. Le livre de l'Apocalypse se termine dans l'attente du retour de Jésus. Nous lisons Apocalypse chapitre 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. C'est Jésus qui atteste ces choses. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Ce mot, bientôt, je viens bientôt. Ce mot bientôt signifie soudainement, rapidement, vite, bientôt. Ainsi, pour la question quand, que nous abordons ce matin, la réponse est que le retour de Jésus est toujours imminent, toujours à la porte. Jésus aurait pu revenir n'importe quel moment dans le passé. Il pourra revenir n'importe quel moment dans l'avenir, ou il pourra même revenir en ce moment même. Cette idée d'être toujours prêt, toujours sur le point d'arriver, est exprimée par le mot imminent. Dans ses paraboles, Jésus a enseigné l'importance d'être prêt, de veiller, de rester éveillé, prêt pour son retour imminent. Êtes-vous prêt? L'arrivée du Seigneur Jésus sera en deux temps, avant et après la tribulation. Donc, des fois, ça nous confond un petit peu, mais de l'optique de l'Ancien Testament, Jésus devait venir une fois, et pourtant, il est venu une fois, il vient une autre fois, le premier et le second retour. Mais de l'Ancien Testament, on voyait qu'il devait venir une fois, et c'est pareil pour le retour de Jésus. Avant la tribulation, il enlèvera en un clin d'œil les derniers véritables croyants à sa rencontre dans les airs sans que ses pieds touchent le sol. Puis, 7 années plus tard, à la fin du 70e semaine, à la fin de la tribulation donc, il redescendra avec ses armées sur le mont des Oliviers afin de faire la guerre aux hommes et de démarrer son règne sur la terre. Pour nous qui croyons, nos yeux sont fixés sur l'arrivée de Jésus dans les airs avant le commencement de la tribulation, ce qui est, je le répète, le 70e semaine de la prophétie de Daniel. Alors, quand reviendra Jésus? Son arrivée est imminente et avant la tribulation. Jésus dit à nous tous, veillez, soyez prêts. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Donc maintenant, on va parler de ces signes, les signes de l'avènement de Jésus et la fin de l'époque. Donc, ce sont les signes avant la tribulation. Donc, je vous les montre en premier. Donc, c'est pas une étude biblique, là, c'est les explications. Et c'est pour cela que je l'ai mis un peu à côté. Donc, dans Daniel chapitre 2, et nous allons parler de ça peut-être dans, je ne sais pas, quelques semaines, il y a la prophétie qui est donnée, un songe qui est donné donc à Nebuchadnezzar d'une statue avec la tête en or et puis le corps en airain et puis argent et puis arène et puis fer. Et puis fer mélangé avec l'argile. Et ça faisait une statue. Et cette statue représente le cours de la civilisation depuis Nebuchadnezzar à 600 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à, donc je réponds à la fin de cette phrase tout à l'heure. Donc, dans le songe, il y a une pierre qui se détache toute seule et qui frappe les pieds et devient une montagne qui va remplir toute la terre et qui va par la suite entrer dans l'éternité. Et ce qui arrive à cette statue, le texte dit, nulle trace n'en fut retrouvée. C'est-à-dire, toute cette cour de la civilisation va disparaître quand Jésus, le roc de l'éternité, va taper, frapper toute la civilisation et va le remplacer par son propre royaume. Ça, c'est ce qui arrive globalement dans l'avenir. Ça, c'est une prophétie dans Daniel et toutes les prophéties qui concernent depuis 600 avant Jésus-Christ jusqu'à l'éternité doivent correspondre à ce schéma que Dieu a donné à Daniel. Alors, donc, pour vous le dire rapidement là aussi, donc, vous pouvez avoir sur Internet, peut-être demain ou après-demain, les références bibliques. Voilà, les références bibliques, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Et puis, sur un PDF, vous avez les références bibliques, vous faites l'étude, vous avez cette tableau-là. Et je reprends le bonhomme là, je le mets donc sur son côté pour faire une comparaison, un accord en fait, entre les diverses prophéties de Daniel, Jésus, Paul, Pierre et Jean. Et là où ça se situe, parce qu'il y a une correspondance parfaite dans les prophéties bibliques. Mais nous n'allons pas entrer dans tout cela aujourd'hui. Nous allons simplement, là, dans ce moment, parler des signes avant son retour. Jésus a dit à Matthieu, il faut que ces choses arrivent. Il faut que certaines choses arrivent. Alors, à comprendre bien, les prophéties dans la réponse de Jésus, donc quand les disciples ont posé les questions, quels sont les signes de ton événement et la fin de l'époque. Et Jésus va répondre dans Matthieu chapitre 24 et en Marc 13 et en Luc 21. Mais quand Jésus donne ses réponses, il faut comprendre que les prophéties dans sa réponse concernent la période de la tribulation, que je vais discuter ça dans le dimanche. Okay? Mais les signes seuls à eux ne sont pas les accomplissements prophétiques. Les signes à eux seuls sont simplement des signes. Les signes qui montrent l'approche, la possibilité du futur accomplissement des prophéties. Mais les signes en soi ne sont pas la fin. Okay? Depuis les disciples, jusqu'à nos jours, comme je vous ai déjà dit, hein, nous vivons les préparatifs et nous approchons de la fin de l'époque. Ça fait déjà 2000 ans que nous approchons la fin de l'époque avec la probabilité ou la possibilité ou l'imminence de retour de Jésus à n'importe quel moment. Okay? Nous parlons de ces signes dans quelques minutes, mais avant cela, je voudrais parler brièvement de ce chapitre, Matthieu 24, car ce chapitre est en réponse à la question des signes, etc. Et donc, nous voulons aborder le sujet des signes, donc il faut voir aussi Matthieu 24, mais très brièvement, je vais parler de ces choses qui vont arriver pendant la tribulation. Donc, dans Matthieu 24, où Jésus parle de ces choses, il a averti ses disciples tout d'abord de ne pas se laisser détourner ou séduire d'aucune manière. Hein? Dans le verset, il dit, prenez garde Matthieu 24, verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Paul dit la même chose dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, 2, 3, etc. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, ça c'est un esprit, soit par quelques paroles ou par quelques lettres des contrefaçons, quelques lettres qu'on dirait venir de moi, de nous, de Paul ou son équipe, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc voilà, on va voir en résumé ce que Jésus dit dans ce chapitre Matthieu 24. Donc dans le verset 4 à 8, Jésus parle du commencement des douleurs, c'est-à-dire la première moitié de la tribulation. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, ce qui veut dire que les choses vont s'empirer. Dans les versets 9 à 14, Jésus parle de la seconde moitié de la tribulation en prophétisant sur l'aggravation de la situation par les persécutions, les séductions, l'augmentation de l'iniquité dans le monde. Et en même temps, les croyants de la tribulation, ces croyants à cette époque-là, on parlera de ça dans 2 semaines, ces croyants persévéreront dans la foi et dans l'évangélisation. Puis, Jésus termine ce texte-là avec la promesse au verset 14, alors viendra la fin de l'aïonion, de l'aïon, la fin de l'époque. Dans le verset 15 à 22, Jésus revient pour parler sur la sévérité de la seconde moitié de la tribulation, le temps de grande détresse. Dans les versets 23 à 26, Jésus aborde encore le thème de forte séduction spirituelle pendant la tribulation, des faux prophètes, des faux Christ, des faux miracles, des prodiges à ce moment-là. Rappelez-vous que nous, depuis 2000 ans, nous sommes vivants dans cette époque avant la tribulation. Nous voyons les signes précurseurs qui ne cessent pas, qui ne cessent de se multiplier et de se clarifier. Pourtant, ce n'est pas l'accomplissement des prophéties qui ont lieu dans la tribulation, mais on voit les choses qui se passent et qui se préparent. Dans les versets 27 à 30, Jésus parle de son arrivée ainsi que sa victoire sur ses ennemis. Personne ne peut contrefaire le retour de Jésus, car son arrivée manifestera son omnipotence et gloire, à tel point que les puissances des cieux seront déstabilisées et les gens sur la terre vont se cacher. Le roi de gloire entrera dans son règne. Alors j'insiste un petit peu sur cela parce que à l'époque de la réforme, il y avait un groupe, il y avait quelques personnes comme les charismatiques. Je ne me souviens plus exactement comment ils étaient appelés, mais c'était des gens qui ont prétendu avoir des révélations et dire que voilà, Jésus était venu établir son royaume à Münster. Et donc le royaume de Christ était une chose politique et c'était plein d'iniquité dans ce mouvement. Et les gens ont vraiment fait des bêtises en pensant que c'est eux qui allaient établir le royaume de Jésus. Eh bien non. Dieu, il rétablira son royaume quand il veut et de la manière qu'il veut bien le faire et de manière miraculeuse, omnipotente. Et donc, ça n'a rien à faire pour nous à essayer de faire venir le royaume de Christ. Et puis, dans verset 31, les croyants qui sont encore vivants à la fin de la tribulation sont regroupés par les anges et sauvegardés pendant la restauration de la nature afin que ces gens-là puissent peupler le millénaire. par la suite, dans Matthieu chapitre 4, versets 32 à 51, Jésus donne trois comparaisons. Ces comparaisons sont des illustrations pour apprendre aux chrétiens, nous qui sommes regardant autour de nous, et les chrétiens ou les croyants dans la tribulation, eh bien, apprendre aux croyants à être prêts pour son retour. Il insiste, il donne trois illustrations pour dire ça. Première illustration, versets 32 à 35, c'est le figuier. Quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc ça, c'est nous, on voit des choses qui se passent. On dit, tiens, il est presque là. Mais on dit ça depuis longtemps et on va continuer à le dire jusqu'à ce que Jésus vienne. Parce que c'est comme ça. Jésus va venir, son arrivée est imminente. Ça peut être à n'importe quel moment, du passé, du présent, du futur. Il vient. Donc, Jésus dit en verset 36, veillez. Soyez prêts. Ne dormez pas. Hein? Les indices ne sont pas la réalité. Trop de monde, trop de chrétiens se détournent de Jésus pour poursuivre les indices. Ce n'est pas à faire. Et c'est en partie pour ça que j'ai dit, bon voilà, je mets cette question du signe après le message parce que c'est, oh, c'est intéressant. Et pourtant, ça doit nous aider à rester éveillés et en même temps, on ne doit pas focaliser là-dessus. La seconde illustration ou comparaison, c'est dans le verset 37 à 41, c'est Noé et le déluge. Et puis à la fin, il dit, veillez. Et la troisième comparaison, c'est dans le verset 43 à 51, c'est l'histoire de l'arrivée du maître de la maison. Et puis à la fin, il dit, tenez-vous prêts. Soyez fidèles. Ce n'est pas les mots exacts, mais je résume. Le point de ces illustrations, le point, c'est que aucun signe n'est nécessaire avant que Jésus n'arrive. Jésus peut même venir maintenant. Il vient tout court et nous devons être prêts. Se laisser détourner dans la poursuite des signes, c'est un peu comme vouloir attraper les ombres. Ça ne marche pas. L'enlèvement des croyants à la rencontre de Jésus dans les airs est imminent. Aucun signe ni prophétie doit s'accomplir avant l'enlèvement. Par contre, il faut comprendre que ceux qui pensent à tort que l'enlèvement aura lieu après la tribulation, donc à la fin de la 70e semaine, hein, ils doivent calculer les signes. Ils doivent toujours calculer les signes et l'accomplissement des prophéties et toujours considérer que Jésus reviendra non pas aujourd'hui, mais dans 7 ans ou encore plus tard. Or, si Jésus n'arriverait que dans 7 ans, son arrivée n'est pas imminente. Il n'y aurait pas besoin de se préparer. Donc, je suppose qu'il y a des raisons que on a proposé cette théorie, mais cette théorie ne correspond pas à l'enseignement de Jésus que nous devons être prêts à tout moment pour son arrivée, pour nous prendre dans l'air d'être avec lui. La Bible enseigne clairement que le retour de Jésus pour ses fidèles est imminent. Ceci se traduit dans une attitude d'être toujours prêt, car il arrive en un peu de temps, n'importe quel moment. Bon, voilà. Maintenant, on tourne vers cette question des signes. Les disciples ont demandé à Jésus dans Matthieu 24, verset 3, quels sont les signes de ton événement et de la fin de l'aïon? Alors, je insiste sur ce point. La traduction n'est pas monde. La traduction de mot aion est âge, ère, époque, c'est une époque dans une série d'époques. Donc, comme on a vu autrefois, que voilà, il y a cette dispensation, ben, voilà, c'est une chose dans une série d'autres choses. C'est la fin de notre époque de dispensation de la grâce. Quels sont les signes de ton événement et de la fin de l'aïon? Oh, je voulais dire aussi que dans la tradition protestante, je ne sais pas pour les pensées catholiques là-dessus, mais dans la tradition protestante, on pensait qu'on vivait, donc je dis rapidement, je parlerai une autre fois plus de détails, mais on pensait que dans ce moment de la réforme, on était dans la tribulation et on attendait l'arrivée de Jésus pour la fin du monde, parce que les choses étaient tellement sévères. Et on attendait, et donc dans les traductions protestantes, eh bien souvent, comme ici, dans ce verset, et Matthieu chapitre 28, verset 20, eh bien, au lieu de traduire aïon comme époque ou ère ou quelque chose comme ça, on dit monde, fin du monde. Ben, c'est faux. Okay? Ce n'est pas la fin du monde. Et ça, il faut comprendre dans l'esprit, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'époque. Donc, je vais énumérer 47 signes dans 6 listes différentes, sans donner des références bibliques concernant la fin de notre époque. Okay? Il y a d'autres signes. Je n'ai pas dit que c'est tous les signes, j'ai dit simplement, voilà, 47 signes, ces signes parlent à moi, peut-être qu'ils ne parlent pas à vous. Okay? Vous avez peut-être d'autres choses qui parlent à vous. Dès demain, vous retrouverez sur www.123reunion.info les informations dans un PDF, comme je vous ai dit tout à l'heure. OK, premier point, les signes dans le christianisme. Donc, l'apostasie. Paul a dit, il faut que l'apostasie arrive premièrement. Donc, l'apostasie est un grand signe, le plus grand signe de notre époque, de notre moment dans l'histoire, c'est l'apostasie. L'incrédulité chez les supposés croyants. L'apostasie, l'abandon de la simple foi biblique par le christianisme, par exemple donc l'œcuménisme. Le refus de la doctrine biblique, renier les événements bibliques tels que le déluge et le retour de Christ au milieu, au sein du christianisme. L'acceptation des fables, donc des fictions, à la place de la vérité. Renier l'inspiration et l'autorité des Écritures. Et vous savez combien de chrétiens se sont déviés dans la poursuite des allégories du fantastique, comme dans les livres de Lewis, de Tolkien, de Harry Potter et d'autres choses. C'est dommage. Des faux enseignants, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux Christ. La croissance dans le christianisme des esprits séducteurs. Une grande partie du christianisme actuel poursuit les signes, les prodiges, les miracles. La foi dans la vérité biblique objective a été remplacée par l'expérience subjective. Les mouvements de l'incrédulité au sein des églises non catholiques, je ne parle pas de catholicisme, les mouvements de l'incrédulité au sein des églises non catholiques remontent au XVIIIe siècle. Nous, on est dans le XXIe siècle. Donc, ça a commencé pour l'incrédulité déjà il y a plus de 2 siècles. Depuis le XIXe siècle, le nombre de sectes pseudo-chrétiens ne cesse d'augmenter. Depuis le XXe siècle, de nombreuses sectes non chrétiennes se propagent en utilisant un certain vocabulaire chrétien. Et puis, de nos jours, au XXe siècle, mais depuis longtemps, enfin, les anciens pays dits chrétiens sont envahis des pratiques païennes. Le yoga, les bouddhas, l'astrologie, les mouvements occultes et sataniques, tout ceci est en préparation pour la fausse religion mondiale de l'Apocalypse, donc l'Apocalypse appelle Babylone la Grande, qui donc trafiquera avec l'Antichrist. La seconde série, les signes dans la nature. L'augmentation des tremblements de terre, donc les tsunamis et d'autres destructions. Okay? Oh, il y a toujours des tremblements de terre. C'est vrai. Mais dans l'histoire, il y a très peu de tremblements de terre catastrophiques. Celui de Pompéi. Hein? Il y a quelques-uns. Et puis, en 1906, il y avait un grand tremblement de terre à San Francisco. C'était quasiment le sol jusqu'à dans les années 1950. Et puis, de plus en plus, on parle de plus en plus et plus en plus des tremblements de terre. Donc, c'est qu'il y a de plus en plus et de plus en plus fort. Il y a des signes dans le soleil, comme l'augmentation d'activité solaire qui réchauffe la planète. On ne cesse de parler de la disparition des animaux, de la croissance devient plus grand, prend plus de territoire, les déserts, du réchauffement de la planète, des changements climatiques, de l'augmentation d'activité solaire, du fondement des glaciers et des caps solaires. Ceci prépare le monde pour ce que l'Apocalypse nous révèle, qu'il y aura la perte d'un tiers des plantes, d'un tiers des poissons et d'un tiers de l'eau douce pendant la tribulation. L'accomplissement est dans la tribulation. Nous, on voit les... Oh, ça nous surprend de voir toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas la chose. La chose, c'est dans la tribulation. Troisième liste. Les signes dans le monde politique et financier. La fondation des Nations Unies, 1945, le mouvement d'unifier Europe. Donc l'ancien Empire romain, n'est-ce pas? Dont le traité de Rome en 1957 et plein d'autres choses. Le système bancaire SWIFT pour les finances internationales, 1969. Le globalisme dans divers domaines, là c'est vaste. La recherche mondiale de paix. Et en même temps, l'augmentation des guerres entre les nations et entre ethnies. Le mouvement pour établir la paix entre Israël et les pays musulmans, souvent dans les informations. En dehors de la guerre, toutes ces choses sont bonnes, utiles. En revanche, dans l'optique prophétique, tout ceci s'accumule pour préparer un pouvoir politique mondial centralisé, ainsi qu'une économie mondiale unique. Et selon les prophéties de ce qui va se passer plus tard, eh bien tout ceci tombera entre les mains d'une seule personne, l'Antichrist. Quatrième liste, les signes dans la société. Il y a des augmentations au niveau de l'immoralité, la violence, les pestilences. Pourquoi on est dans le confinement actuel? C'est une pestilence qui s'appelle COVID-19. Les épidémies, donc les famines. Il y a une grande croissance de l'iniquité. Le végétarisme ou véganisme. Le désintéressement au mariage. La poursuite des loisirs à la place de l'amour de Dieu et l'annonce mondiale de l'Évangile. Alors les gens semblent de plus en plus perdus, et dépassés sans repère et sans avenir. L'arrivée de ce virus-là, COVID-19, et toutes ses ramifications sociales, économiques, technologiques et politiques démontrent qu'une puissance spirituelle néfaste peut exercer une grande influence sur le monde. Nous le voyons tous les jours en ce moment. Le cinquième point, les signes dans la connaissance. Oui, les signes dans la connaissance ou l'augmentation de connaissances et les technologies. Il y a les grandes avancées numériques et robotiques. Le développement des codes barres, des GEN codes. Le développement des cartes bancaires, puces électroniques, les paiements par téléphone mobile. L'implantation des puces numériques pour identifier les animaux, les militaires, les membres des clubs. Il y a la communication mondiale et individuelle. Il y a le système GPS qui permet à traquer les mouvements en temps réel des enfants, des époux, des malades, etc. Individuellement et même ensemble, ces technologies sont très utiles. C'est bien. Pourtant, dans l'optique prophétique, l'ensemble de ces technologies permettent à isoler, à traquer et à contrôler les individus. Elles donnent la possibilité de marquer une personne avec une puce multifonctionnelle sur la main ou le front qui identifie la personne et l'autorise à faire du commerce, etc. Avec le paiement sans contact, on pourrait facilement scanner la main ou le front avec une de ces petites machines, hein, pour faciliter l'identification et le commerce, etc., comme dans l'Apocalypse. Puis enfin, je crois que c'est le sixième, oui, donc les signes dans le territoire d'Israël. Parce que, comme on a déjà dit, les 70 semaines concernent le peuple d'Israël depuis que Artaxerxès a proclamé que la ville de Jérusalem devait être construite jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ pour établir son royaume, 70 semaines. Les 69 semaines étaient accomplies à la crucifixion de Jésus et nous attendons la dernière semaine. Cette semaine-là concerne Israël, dont les signes dans le territoire d'Israël. On est au numéro 38. L'existence même du pays d'Israël, qui était oblitéré par les Romains dans l'année, il me semble, c'était 130, hein? Donc ça, presque 2000 ans, 1900 ans que ça n'existait pas. Donc le mouvement sioniste, ou zioniste, sioniste, je crois que c'est sioniste, bon, vous savez, de Zion, Sion. Depuis le 19e siècle, 1948, Israël devient un pays, bien que toujours dans l'incrédulité, vis-à-vis de Jésus, hein? 1967, une partie de Jérusalem revient aux Juifs. De plus en plus d'émigration vers Israël. Les préparations pour construire le temple. Les préparations pour rétablir les sacrifices journaliers. Vous comprenez donc, la présence des Juifs en Israël est précurseur de la 70e semaine de Daniel. Toutes ces choses doivent se mettre en place. Ils sont en place. Point 45. La propagation de l'antisémitisme, comme le nazisme, malgré tous les efforts pour l'abolir, montre la puissance et l'antagonisme spirituel contre le peuple de Jésus. Les prophéties concernant la tribulation prévoient de l'hostilité envers Israël, par la Russie, l'Iran, le Soudan, la Libye et la Turquie. En revanche, dans les prophéties, il doit aussi exister de l'amitié envers Israël de la part de l'Égypte et de la Jordanie. Il me semble qu'on a vu ça dans les informations. Point 46. L'Apocalypse prophétise une armée qui viendra de l'Est, capable de déployer 200 millions de soldats au moment de la tribulation. 47. Cette masse de militaires doit traverser l'Euphrate à sec, ce qui est possible depuis qu'on a mis une barrage sur l'Euphrate. Les érudits calculent que la population toute entière de la planète, quand Jésus a écrit l'Apocalypse, était moins de 300 millions de personnes. Entre, je pense, le chiffre que j'ai vu le moins, c'était 1,58 million. Donc, la plupart étaient dans les 200 millions et il y avait les numéros jusqu'à 300 millions. Aussi, tous les 28 légions romaines ne comptaient qu'au maximum environ 168 000 hommes. Donc, vous imaginez, à l'époque de Jean, quelle audace de prétendre ou de prédire une force militaire de 200 millions d'hommes, 1000 fois plus que la totalité des légions romaines. 1000 fois. Puis, de nos jours, voir que la Chine se vend de plus de 200 millions de soldats, ça montre la divine, l'inspiration divine de l'information que Jean a prophétisé il y a près de 2000 ans. Quand on regroupe tous ces faits ensemble, nous nous apercevons que le courant de la vie se dirige rapidement vers quelque chose. Mais ce n'est pas vers une vie meilleure. Au contraire, c'est vers une dégradation dans la nature et la société. La technologie et la politique renforcent la puissance et la portée mondiale des élites. Un jour, le monde entier se tournera vers un faux Christ, antichrist, un faux Christ, qui prétendra pouvoir régler les problèmes catastrophiques croissants. Et Dieu interviendra au bon moment pour restaurer la nature et instaurer son propre royaume mondial. Bon, après tout ça, devons-nous avoir peur? Non, non, il faut que ces choses arrivent. Il faut, Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent premièrement dans l'accomplissement du programme prophétique, avant que le Fils de l'homme arrive pour régner, pas pour l'enlèvement, mais pour régner. Jésus a parlé des signes afin que nous n'ayons pas peur. C'est ça le point. Il nous a fait connaître ces choses pour nous montrer que Dieu a le contrôle de l'avenir. Opposez-vous, Dieu, il fait ce que Dieu fait et nous n'avons rien à craindre. Ayons confiance en lui. Ne soyez pas troublés. Il a dit, Jésus l'a dit, et Paul a dit, ne soyez pas troublés par rien du tout. Regardez vers Jésus qui vous prendra avec lui au bon moment. Amen. Bon, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas d'aller sur le site 123reunion.info pour chercher les PDF avec les versets, etc., qui soutiennent l'information que je viens de vous donner. À la prochaine fois!